Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8. Bonsoir, bienvenue dans l'apérophonie sur Campus Grenoble 90.8. Dans cette émission, on vous propose l'épisode « Sans enfants, merci » du podcast « Du poil sous les bras » créé par La Petite Blanc. Elle y reçoit Laurence Santantonios pour parler du choix de ne pas être mère. Bonne écoute!
Bonjour, bonjour, c'est La Petite Blanc qui vous parle. Oui, je sais, c'est pas un prénom, La Petite Blanc, dirait Éric Zemmour, mais en même temps, j'en ai vraiment absolument rien à faire de ce que peut dire ou penser Éric Zemmour. En tout cas, du poil sous les bras, ça va commencer incessamment sous peu. Que vous dire? Eh bien qu'on va parler de tous les enfants qu'on ne fera pas, nous les femmes qui avons autre chose à faire. Alors que pourtant tout fonctionne, je veux dire par exemple j'ai mes règles, pas là tout de suite au moment où je vous parle, mais je les ai, plutôt régulières d'ailleurs en ce qui me concerne, et d'un magnifique rouge vif. Mais revenons à nos moutons, c'est parti pour du poil sous les bras. On entend parfois l'expression « en avoir ou pas », sous-entendu des ovaires bien sûr, et quand on en a des ovaires, qu'est-ce que ça change? D'un côté, c'est bien d'en avoir. En avoir, c'est être courageuse. Mais est-ce qu'on reste courageuse quand on en a mais qu'on ne s'en sert pas vraiment? Prenons mon cas, par exemple, au hasard. Disons que j'ai des ovaires, une production d'ovules qui fonctionne, tout un appareil reproductif haut de gamme. Enfin, un truc pas vraiment dernier cri, il a déjà quelques années, mais il est comme neuf à part quelques rides. Voilà, disons que j'ai un appareil reproductif standard en état de marche. Et qu'est-ce que je suis censée faire de tout ce truc? Un enfant ou plusieurs, me répondent en cœur, la société, l'église, le grand-père, la voisine. C'est logique, c'est naturel, c'est divin, c'est comme ça et puis c'est tout. Eh bien non, ce n'est pas tout. C'est même loin d'être le seul choix qui s'offre à moi. Moi, des gamins, je n'en veux pas. Pour autant, je n'empêche pas les autres d'en avoir. Chacune vit sa vie à sa façon. Mais moi, c'est sans enfant, merci, comme je prends mon rosé sans glaçon ou mon thé sans sucre, c'est comme ça, je préfère. Après tout, les féministes se sont battues pour qu'on ait le choix, pour que j'aie un enfant si je veux, quand je veux. Et puis si j'en veux pas, c'est mon corps, mon choix, et ça ne regarde personne d'autre que moi parce que je suis libre. Même si avoir la liberté d'eux n'est pas une fin en soi, c'est au moins une chance offerte de réfléchir, de choisir, de vivre parfois différemment, mais ni moins bien, ni à moitié. C'est donc de femmes et de liberté, et de poils aussi, que nous allons parler dans un instant avec mon invité, qui a enfanté plusieurs fois d'ailleurs, mais qui ne juge pas pour autant celles qui ont fait un choix différent.
Du poil sous les bras.
La petite blanc dans du poil sous les bras.
Bonjour Laurence Santantonios.
Bonjour Blandine.
Merci d'être là avec moi pour parler de Libre à elle, le choix de ne pas être mère. C'est aux éditions du Mot Conduit, dont tu nous diras peut-être un mot. Ce sont des éditions que tu connais bien.
Oui.
Tu les as créées.
Oui, c'est vrai. Je m'en veux d'une certaine manière d'être auteur et éditrice pour ce livre-là. En général, je m'occupe plutôt de mes auteurs. Mais bon, en tout cas, c'est une maison effectivement que j'ai créée il y a 7 ans avec beaucoup de passion et qui se décline à la première personne du singulier en général. Voilà.
Et j'en profite, moi, pour saluer mes amis Alain et Désiré Frappé, qui ont édité aux éditions du Mot Conduit.
Bien sûr, c'était mon premier livre. Voilà. C'était mon premier livre, Dans l'ombre de Charonne. Et ça continue d'ailleurs de trouver ses lecteurs.
Voilà, une BD très très chouette,
Absolument.
Dans l'ombre de Charonne,
Absolument.
Qui n'a rien à voir avec le sujet du jour, mais qu'on recommande.
Absolument.
Et donc, toi, Laurence, tu as écrit donc, Libre à elle, le choix de ne pas être mère. Pourquoi avoir fait ce livre sur les femmes qui ne veulent pas d'enfants? Est-ce que c'est par anticonformisme, alors que toi-même, finalement, tu en as. Je ne dévoile rien de secret. Hein. C'est dans le livre, tu le racontes. Alors, c'est quoi? C'est de l'anticonformisme?
Mais je ne sais pas. Est-ce que je suis anticonformiste moi-même? Je ne me suis pas trop posé la question. Mais en tout cas, j'ai eu un désir profond d'écrire ce livre, ça, c'est sûr. Et c'est vrai que de quoi c'est parti ? De moi, c'est-à-dire j'ai eu effectivement deux enfants à presque 20 ans de distance. Hein, c'est, il y en a un qui a 29 ans et l'autre 45, ça fait pas mal. Et avec un désir irrépressible d'en avoir. Et chaque fois avec un homme aimé dont je voulais qu'il devienne père. Et là, maintenant que j'arrive à un certain âge, que je n'ai plus la vigilance quotidienne de mes enfants, j'avais le champ libre, comme ces femmes sans enfants dont je me suis toujours sentie paradoxalement proche. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce désir qui est irrépressible, que j'ai ressenti ? Est-ce que c'est de l'ordre biologique, de l'ordre culturel ? Donc, en me posant cette question, je me suis dit, je vais voir rencontrer ces femmes qui n'ont pas d'enfants et dont je respecte beaucoup. Je ne sais pas si on peut parler d'anticonformistes. Oui, parce qu'elles ne suivent pas la norme, c'est vrai. Mais en même temps, qui sont comme les autres. Enfin, bon, surtout en plein milieu du XXIe siècle. Je suis allée à leur rencontre.
Et alors, c'est ça qui est important, d'ailleurs, c'est que le livre, c'est un livre de témoignages et de récits. C'est-à-dire, il y a une partie de ton histoire. Tu racontes aussi ton histoire que tu mets en parallèle avec ces femmes que tu as rencontrées et qui témoignent. Et c'est important parce que c'est pas, on va dire, une femme qui a des enfants qui écrit sur les femmes qui n'en ont pas. Ce sont des témoignages et tu rapportes leurs paroles.
Je rapporte parce que en fait, j'ai rencontré une quarantaine de femmes, j'ai confronté mon expérience à la leur, et elles de même. C'était de vrais échanges. Il n'y avait pas de questionnaire, il n'y a rien de scientifique. Ce sont des femmes avec lesquelles on a parlé de façon souvent très intense, très intime, et on a essayé de se comprendre l'une l'autre. Voilà, c'était ça l'idée.
Voilà, c'était pas de se dire qui a raison, c'était de se dire on a toutes les deux raisons.
Évidemment. Qui a raison, je crois que la raison n'a pas grand-chose à faire d'ailleurs dans ce domaine. Et puis au fur et à mesure que je les interrogeais, que je les écoutais, j'ai compris qu'elles avaient le désir que leurs paroles circulent, que les hommes et les femmes les considèrent comme des femmes à part entière comme tout le monde. Et en interrogeant effectivement mon entourage, je me suis rendu compte avec une vraie surprise de l'ignorance, des idées toutes faites qu'avaient les gens sur ce sujet, comment ça les dérangeait. Donc, fort de tout ça, je me suis dit, il faut que j'écrive un bouquin. Et puis, comme je me suis rendu compte qu'en plus, c'était une vraie tendance sociétale, hein, puisque si on donne, vous voulez que je donne quelques chiffres ?
Allons-y, il y en a dans le livre. Hein, ouais, 18% des Européennes de 40 ans sont sans enfants.
Par exemple, c'est beaucoup, 18% des Européennes de 40 ans.
Et elles sont invisibles dans l'espace public.
Voilà.
Et d'où ce livre, qui est d'autant plus important qu'on ne les voit pas, on ne les entend pas.
Ouais.
Et tu viens de le dire à l'instant, on les considère plus ou moins comme ayant un problème ou physique ou psychologique. Hein, si une femme a un utérus en état de marche, la société ne comprend pas vraiment pourquoi elle n'a pas d'enfant.
Alors que les modes de vie sont tellement diversifiés depuis de 30 ou 40 ans. Enfin, on a l'impression qu'il y a une ouverture, une possibilité de vivre différemment, parce que c'est bien un éloge de la différence, ce bouquin que j'ai voulu faire. Alors qu'une femme qui dit tout simplement, puisque aujourd'hui que la maternité est intentionnelle, c'est-à-dire qu'on peut décider ou non d'avoir un enfant, une femme qui dit « je ne veux pas d'enfant » est considérée comme suspecte. C'est quand même étrange. J'ai voulu aussi rencontrer des femmes lesbiennes et parce que je trouvais ça important, ça fait partie. Et puis aussi parce qu'aujourd'hui, il y a 30 ou 40 ans, on disait « je ne veux pas d'enfant ». »« Ah bon, mais t'es lesbienne !» Aujourd'hui, ça semblerait complètement obsolète, puisque finalement, les lesbiennes, et je pense que ça va se développer de plus en plus, peuvent plus facilement qu'hier.
En tout cas, lutte pour un accès
ou alors, en tout cas, vous luttez, vous l'aurez bientôt, ça c'est certain. En Espagne, on parle de, j'ai oublié le terme, d'homo baby-boom, même.
Ah, là, on parle des femmes dans leur ensemble,
c'est vrai.
Quelle que soit leur orientation sexuelle.
Exact.
Et puisque tu parlais de chiffres, 3 à 5% des femmes en France... C'est une estimation qui est dans ton livre. Tu dis 3 à 5% des femmes ne veulent pas d'enfants. Alors, ce n'est pas les 18% des Européennes. Et ça s'explique parce que c'est pas forcément... Parmi les femmes qui n'ont pas d'enfants, tu dis que ça n'a pas forcément été un choix à la base.
Voilà, ces 18%, c'est volontaire ou non. Mais parce que c'est assez difficile de comptabiliser celles qui choisissent de ne pas en avoir. D'abord parce que même ce choix est d'une telle complexité. Mais il y a quand même eu, en France, plusieurs études qui date d'ailleurs de 3-4 ans, qui mène, qui finalement, on arrive à ce résultat de 5% de femmes qui choisissent de ne pas en avoir. Que ça soit très déterminé depuis le départ, radical, ou de façon plus ambivalente par rapport à sa vie professionnelle et personnelle. Mais voilà.
Et puis d'ailleurs, tu dis que le reste, on va dire, du pourcentage de femmes qui se retrouvent sans enfants, c'est aussi des fois suite à un report du choix. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément qui décide de ne pas en avoir,
c'est
mais
ça,
ce qu'ils
disent, celle-là que j'appelle les ambivalents. C'est-à-dire qu'elles reportent en fonction de ce qu'elles vivent. Et puis finalement, elles renoncent. Et puis finalement, elles assument. Et puis finalement, si je ne l'ai pas faite, c'est peut-être que je n'étais pas faite pour avoir un enfant. Moi, chapeau, parce que je trouve que s'aventurer, se lancer dans une aventure aussi grave, si on ne s'en sent pas complètement capable, ou en tout cas, si on n'est pas en cohérence avec soi-même, eh ben, il vaut mieux pas le faire. Hein, on n'est pas une espèce en voie d'extinction, hein, quand même.
C'est pas tellement une question de on se sent capable ou pas. Il y en a quelques-unes qui disent bon, moi je me sentais pas capable.
Le capable n'est pas forcément le bon terme d'ailleurs.
J'aurais préféré être père. Il y en a même une qui dit je me sentais
plus à l'aise.
Mais c'est beaucoup. Alors il y a une nouveauté aussi d'ailleurs qui sont les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants pour des raisons politiques, écologiques, donc conscientisées, mais vraiment argumentées et pas juste bon, j'en veux pas parce que finalement je me sens pas d'en avoir quoi.
Non, mais je dirais que tous ces facteurs écologiques, politiques viennent quand même après. Aussi un non-désir. Par exemple, je pourrais dire, quand même, ça m'a assez frappée que sur ces 40 femmes, cette quarantaine, à part une institutrice grecque, je me souviens, qui avait senti à 38 ans une envie d'être enceinte, mais sinon, aucune n'a ressenti de désir physique, de pulsion, même face à un homme aimé, même vivant en couple. Donc ça, c'est important. Aucune n'a ressenti ça.
Et d'ailleurs, tu en finis avec les idées reçues et les mythes. C'est-à-dire que tu dis, le mythe de la parentalité heureuse, de la fécondité triomphante, du soi-disant instinct maternel, tout ça, finalement, c'est un petit peu du foutage de gueule, si vous me passez l'expression.
Oui, comme dit Virginie Despentes.
On a l'impression qu'on nous a raconté n'importe quoi jusqu'à maintenant.
Oui. Pas jusqu'à maintenant, c'est parce que ça a beaucoup évolué. Je veux dire que finalement, ça fait que 50 ans que... qu'a eu lieu la légalisation de la contraception médicale et de l'IVG. Finalement, c'est pas si vieux par rapport à des millénaires. Mais en même temps, malgré tout, c'est là. Les jeunes femmes aujourd'hui, elles considèrent que ces droits sont acquis et on comprend qu'elles raisonnent autrement qu'hier.
Sur tous ces témoignages, il y a une femme qui, à un moment, a eu un moment ce désir, peut-être se dire est-ce que j'ai pas quelque chose qui me titille ? Non, en fait, on ne ressent pas forcément ce désir et c'est pas grave.
Exact. Et c'est pas grave et ça veut bien dire, et moi je le crois, d'autres spécialistes et observatrices le disent, mais l'instinct maternel, c'est pas un instinct puisque certaines femmes le ressentent et pas d'autres. On est de plus en plus dans le domaine culturel.
Et c'est pas de la nature. C'est-à-dire que tu casses aussi cette idée que c'est pas contre nature de ne pas avoir d'enfants.
Oui, c'est-à-dire que je me base sur des études qui vont de Simone de Beauvoir à Elisabeth Badinter, en passant par d'autres femmes, des biologistes, qui se rendent compte qu'on n'est pas comme des animaux. On n'a pas cet instinct. Un animal, il a un petit et il s'en occupe tout de suite de façon instinctive. Tandis qu'une femme, d'abord, comme on vient de le dire, elle n'a pas forcément le désir d'en avoir. Ça ne lui vient pas comme ça. Et quand elle en a, elle n'a pas forcément les gestes pour s'en occuper. Et ça, c'est des non-dits et des tabous terribles. Beaucoup de mères n'osent pas dire que... on parle de baby blues de façon assez pudique, mais elles ne savent pas s'en occuper, ou elles ne peuvent pas, elles se sentent mal à l'aide, elles se sentent mal.
Alors, certaines regrettent, oui, et on t'en parle, et notamment en Israël où une femme, une chercheure, a eu justement ce courage, on va dire, de faire une étude sur les femmes qui pensent que c'était une erreur d'être devenue mère, quoi. Donc, qui regrettent carrément.
C'est un vrai courage dans un pays où il y a 3,5 enfants par femme. C'est quand même énorme, et où à tous les. Je ne voudrais peut-être pas parler comme ça, mais à tous les coins de rue, il y a des banques de sperme et de quoi congeler ses ovocytes, etc. Donc, voilà, religion, société, on pousse à avoir des enfants. Donc, cette femme, Orna Donat, a eu le courage, effectivement, et parce qu'elle-même ne ressentait aucun désir d'avoir un enfant, de faire une thèse, c'était une thèse universitaire, sur les femmes qui regrettent d'avoir enfanté. Non pas qui n'aiment pas leurs enfants, qui ne s'en occupent pas, et anonymement, plusieurs d'entre elles disent j'espère que mes enfants ne le sentent pas ou ne le sauront jamais. Je les aime, mais vraiment, je n'étais pas faite pour être mère et j'aurais mieux fait de faire une autre. Je suis à côté de moi-même. C'est quand même important, ça.
À ce jour-là, elles auraient préféré avoir piscine.
Voilà. Piscine ou, d'une certaine manière, ce que j'ai constaté chez ces femmes, ce point commun que j'ai constaté chez toutes ces femmes, c'est une liberté, un besoin de liberté, mais pas de liberté comme absence de contrainte et aller à la piscine, comme tu dis, comme beaucoup de gens pensent. Ah oui, c'est parce qu'elles veulent faire ce qu'elles veulent. C'est une liberté intérieure, un besoin de cohérence avec soi-même, d'être avec soi. Comme je disais tout à l'heure, de ne pas se lancer dans une aventure où on ne serait plus soi-même. Et ça, je l'ai ressenti comme mère. J'ai ressenti comme mère que j'étais souvent à côté de moi-même, que je devais régler ma vie sur la leur. C'est pas facile, ça. Donc, c'est laisser une part de soi-même de côté.
Du poil sous les bras.
Et les poils dans tout ça? Alors, dans du poil sous les bras, j'aime bien avoir l'envie de l'invité sur ses poils.
Qu'est-ce que je pense des poils sous les bras?
Ça, c'est une bonne question. Je viens d'avoir 70 ans, c'est terrible.
On a encore des poils à 70 ans.
Eh ben non, oui, bien sûr, on en a pas mal même. Mais sous les bras, bizarrement, ils ont presque tous disparu. Donc c'est très pratique. Justement, avant d'aller à cette émission, il y a quelques jours, j'ai regardé, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3-4. Donc voilà, je ne sais pas si ça a une signification, mais on a du poil partout, mais plus tellement sous les bras. J'ai passé mon temps à les épiler quand j'y pense. Les jambes surtout, mais même sous les bras. J'ai passé mon temps à les enlever. Pas les cheveux, là. Les cheveux, on avait envie qu'ils poussent. Hein. C'est marrant, hein, les cheveux. Au contraire. Et quand on vieillit, on perd un petit peu les cheveux. On a envie, au contraire, qu'ils soient aussi épais qu'avant. Et donc, en effet, oui, l'épilation, c'est une vraie corvée, même. J'avais toujours envie d'avoir, par exemple, des jambes comme ça, lisses. Je n'ai pas un rapport si intense avec le poil. Oui, alors maintenant, oui, alors là, je m'en fiche complètement. À part les cheveux. Ah, les cheveux, c'est beau d'avoir une belle tignasse.
That's it.
Du poil sous les bras.
Avec Laurence Santantonios.
Libre à elle le choix de ne pas être mère aux éditions du mot conduit. Du mot conduit ou mot conduit?
Ben, comme tu veux, du mot conduit plutôt au départ, et puis moi je vois de plus en plus qu'on dit chez mot conduit.
Oui, voilà.
Alors.
Parce que j'avais souvenir de du mot conduit, oui, à l'époque.
Exact.
Alors,
vois, ah ben c'est... oui, si tu as suivi ça.
Ben oui, à l'époque de.
Et ben maintenant on dit, ben, peut-être que ça devient tellement connu.
Voilà. Alors bon. Alors chez mot conduit, et Laurence Santantonios, tu es l'autrice de ce livre, Libre à elle. Des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants et qui aujourd'hui sont toujours extrêmement stigmatisées. On les assigne toujours au rôle de mère ou au minimum à quelqu'un qui aspire à l'être. On parle de femmes ici qui ont un appareil reproductif qui marche. On ne va pas blâmer les autres, au contraire, on va les plaindre. Mais une stigmatisation énorme des femmes dont l'utérus est prêt à l'emploi, comme tu dis dans le livre, et qui ne s'en servent pas. Et donc des femmes qui sont accusées d'avoir quelque chose qui cloche physiquement ou psychologiquement. C'est une réalité qui s'entend dans les témoignages dont tu fais part dans le livre, qui est un petit peu en perte de vitesse, c'est-à-dire on a tendance à dire que ça va un petit peu mieux, que les choses évoluent, mais qui reste une souffrance pour beaucoup de femmes, et notamment des femmes aussi un petit peu plus âgées que tu as interviewées, et qui disent que ça a été douloureux parfois pour elles d'être stigmatisées ainsi.
Oui, je dirais que les plus jeunes femmes se sentent tout à fait légitimes elles-mêmes, mais que c'est plutôt le regard de l'autre qui leur renvoie un certain malaise, par exemple, voilà, quand on est jeune, oh, mais tu changeras d'avis, quand on est plus âgé, oh, mais là, il faut se dépêcher, il ne faut pas tarder. Et puis, il y a toute cette société, cette pression insidieuse que l'on retrouve un peu partout, par exemple, dans les médias, dans la presse, à la télévision, on voit des femmes, des stars qui portent leur bébé sur la hanche ou qui tendent leur sein généreusement pour allaiter leur enfant devant les caméras. Tout ça fait que on se dit, bah, pour être bien, il faut avoir un enfant. Donc, elles le ressentent. Mais moi, je peux dire quand même qu'à les écouter, moi, je les trouve formidables. Toutes ces femmes, elles étaient toutes très épanouies, gênées par cette pression qu'elles ressentent autour d'elles, ne les comprennent pas, mais quand même assumant ce choix et se demandant comment faire. Et en effet, j'espère que ce livre y contribuera. Comment faire pour être considérée comme une femme à part entière et non pas définie, pas en fonction du fait d'être mère. Voilà.
Comme dans beaucoup de domaines dans la société aujourd'hui, on a toujours été définie et on nous a imposé aussi une vision très masculine des choses. Et l'homme a eu son rôle aussi dans ce que nous impose aujourd'hui la société. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de littérature, tu dis par exemple de l'accouchement, qui a été produite par des hommes.
C'est vrai.
Donc ce mythe de l'accouchement, c'est super, c'est le plus beau moment de ma vie, ça a été beaucoup aussi construit autour des hommes.
Mais oui, d'ailleurs,
par des hommes.
Et tous les hommes qui aujourd'hui font les législations concernant les femmes, c'est assez inquiétant parfois. On se dit qu'ils n'ont pas vécu les mêmes choses.
Voilà, donc il s'agit de redonner la parole aux femmes.
D'ailleurs,
et notamment...
je profite de ce micro en tant qu'éditrice pour dire qu'il faudrait qu'un homme s'empare de ce sujet. Ça serait intéressant et que ça serait libre à eux. Quoi. C'est-à-dire que ça serait intéressant qu'il donne sa position.
Dans le livre, et beaucoup de femmes qui sont en couple hétérosexuel racontent aussi les discussions qu'elles ont avec leurs compagnons, comment l'homme se positionne. Et sur ce sujet-là, l'homme se cale, on va dire, sur le désir de la femme. Le compagnon, pas l'homme, le législateur, qui lui se base sur ce qu'il a envie de faire et qui n'a rien à voir avec ce que les femmes ont envie de faire. Mais dans la vie de couple, souvent, l'homme va, en tout cas dans les témoignages que tu
c'est
rapportes...
C'est vrai, et je dois dire que même au départ, je voulais interroger, rencontrer des hommes. J'en ai rencontré un en France, un en Belgique. Mais je n'ai pas saisi de vrais discours de leur part. Alors, bon, peut-être qu'il faudrait pousser un peu plus ces études, mais ça serait intéressant qu'ils en parlent, parce que la place de l'homme, je trouve, est une vraie question aujourd'hui. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, c'est l'affaire des femmes, ce dont elles se plaignent parfois, parce que moi, j'ai eu, par exemple, les témoignages de quelques-unes qui me disaient « Mais au fond, moi, je ne le ressens pas, ce désir. » Je crains de me lancer dans une aventure que je n'assumerai pas comme je voudrais qu'elle soit assumée. Si j'avais rencontré un homme, ou si mon homme, celui avec lequel je vis, était d'accord pour prendre assez de responsabilités, et même prendre plus de responsabilités, parce que pourquoi pas, hein, on parle de maternance, ça pourrait être la paternance, eh bien je crois que j'aurais sauté le pas. Et je cite à un moment donné Nancy.
Il y en a même une qui est vexée que son compagnon insiste pas un petit peu plus.
C'est ça.
Ça se trouve, il m'aime pas beaucoup.
Oui, c'est ça.
Il s'en fiche qu'on fasse pas d'enfant, quoi.
Oui, c'est quand même, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'un homme ne pourrait pas prendre. Je cite Nancy Houston, l'écrivaine, qui, elle, a longtemps dit qu'elle ne voulait pas d'enfant, pour plein de raisons. Et puis, un jour, rencontre celui qui va devenir son mari. C'est son premier mari. Et elle dit que c'est comme un homme-mère, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe tellement bien de la fille qu'il avait à ce moment-là, que du coup, ça la libère. Et elle a eu, je crois, 2 enfants. Elle n'aurait pas sauté le pas si elle n'avait pas rencontré cet homme-là.
Voilà, donc une construction sociale autour, comme ça, de la maternité, de faire un enfant, qui est à déconstruire pour après pouvoir, plus librement, qu'on soit un homme ou une femme, faire un choix en conscience. Il y a un point, moi, qui m'a aussi beaucoup intéressée, c'est la société, on le voit, idéalise quand même encore beaucoup le fait d'être mère. Et du coup, ne pas désirer d'enfants nous classe, alors je dis nous parce que évidemment je suis concernée, mais parmi les égoïstes, les narcissiques, les névrosés. Et c'est déconstruit dans le livre, tu dis, c'est pas seulement faux, c'est absurde, parce qu'en plus, bien des femmes qui sont sans enfants s'occupent de leurs parents, de personnes handicapées, de personnes précaires, fragiles, isolées. Et donc, au contraire, ce sont souvent des femmes qui vont avoir du temps pour les autres. Donc ça, c'est aussi une idée forte, souvent, qu'on nous envoie un petit peu à la figure de façon plus j'allais dire directe.
Ouais.
Mais souvent, ne pas vouloir d'enfants, ça va être considéré comme quelque chose d'un petit peu égoïste.
Oui. J'espère que tout ça va peu à peu passer, parce que c'est vrai que moi, ce que j'ai constaté, c'était l'inverse. Des femmes souvent très généreuses, bon, pas toutes, mais comme nous toutes, mais la plupart, avec une envie de s'occuper des autres. Alors souvent d'ailleurs, certaines ont des relations privilégiées, justement parce que femmes sans enfants, avec des neveux, des nièces, les enfants de leurs amis, les enfants de leurs compagnons ou de leurs maris, Donc, ce sont des femmes qui aiment les enfants. C'est ça qu'on n'a pas dit encore.
Oui, voilà, c'est important. C'est pas ne pas en avoir, ne pas accoucher,
ouais, ouais.
Ça ne veut pas dire ne pas avoir une vie remplie d'enfants.
Et il y a même deux ou trois institutrices dans le tas, si je puis dire, qui adorent les enfants, qui passent leur journée, mais qui n'ont aucune envie, en rentrant chez elles le soir, de se retrouver avec un enfant à elles, effectivement. Mais elles adorent les enfants. Alors, donc, il y a même, j'ai rencontré une femme qui a créé des ateliers maternance pour les femmes qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas avoir d'enfants, par exemple.
Et certaines disent aussi, être mère, non merci, ça ne m'intéresse pas. Mais être père, je le disais tout à l'heure, ça, pourquoi pas. Et être grand-mère, grand-mère, j'aurais bien aimé.
Oui, oui.
Donc, il y a vraiment une vision, ouais, d'un rôle qu'on peut avoir dans la société qui nous plaît plus ou moins et qui ne correspond pas forcément.
Je voudrais juste dire quand même quelque chose sur cette notion de maternance quand même. Parce que moi, ça ne me pose pas de problème. Même en tant qu'éditrice, je pense que je me sens maternante. Et je pense que ça peut être formidable. Mais je pose la question justement. Pourquoi est-ce que ces métiers de soins, infirmières, assistantes sociales, garde-malades, sont souvent des métiers de femmes, comme si seules les femmes étaient douées pour ces métiers de soins, pour se dévouer? Moi, je suis persuadée que c'est culturel, encore une fois, que les hommes pourraient faire aussi bien. Et je voulais dire aussi que je comprends que la notion de soins de maternance est contestée par les féministes qui ont la quarantaine aujourd'hui, plutôt, qui pourraient être mes filles finalement, qui pensent que c'est encore une manière de dévaloriser les femmes. Je sens bien que, si je peux faire une petite parenthèse, qu'il y a une grande différence d'approche entre une femme de ma génération, qui a vécu une époque de conquête des droits avec une certaine insolence, une certaine insouciance même, et une femme de 45 ans aujourd'hui, on le voit bien à travers les écrits de Virginie Despentes, par exemple, qui sont en colère. Et je comprends, moi, leur colère. Je comprends, en fait, d'une certaine manière. C'est comme si elles payaient le prix fort pour la liberté acquise par leurs aînés. Parce que, finalement, la légalisation de la contraception, l'IVG, ont permis aux femmes de s'émanciper de leur destin biologique, mais en même temps, elles sont coincées parce que ça a aussi accru les exigences parentales et la gestion de la fécondité plutôt. Donc elles se retrouvent d'une certaine manière presque égales aux hommes dans tous les domaines, mais en même temps, il y a encore 75%, ça c'est dans les chiffres d'aujourd'hui, des tâches d'éducation et des tâches domestiques qui sont réalisées par les femmes. Donc elles sont coincées, elles sont en colère. Elles ne peuvent pas vivre leur vie comme le font leurs hommes.
On a une égalité de droit, une égalité dans la loi, mais qui est très loin d'être
la tête. C'est ça. Ils ont cette fameuse charge mentale dont on parle.
Du poil sous les bras.
Laurent Sant'Antonios.
La propagande pro-maternité a rarement été aussi tapageuse. Foutage de gueule, méthode contemporaine et systématique de la double contrainte. Faites des enfants, c'est fantastique, vous vous sentirez plus femme et accomplie que jamais. Mais faites-le dans une société en dégringolade, où le travail salarié est une condition de survie sociale, mais n'est garantie pour personne, et surtout pas pour les femmes. Enfanter dans des villes où le logement est précaire, où l'école démissionne, où les enfants sont soumis aux agressions mentales les plus vicieuses, via la pub, la télé, Internet, les marchands de soda et confrères. Sans enfants, pas de bonheur féminin, mais élever des gamins dans des conditions décentes sera quasi impossible. Ça, ce sont évidemment les mots percutants de Virginie Despentes, qu'on vient d'écouter, et Virginie, que tu cites dans ce livre,
oui.
Libre à elle, le choix de ne pas être mère, il y a effectivement cette problématique de l'égalité homme-femme.
Et dans King Kong.
Dans King Kong Theory, oui, de Virginie Despentes. L'égalité de fait, l'égalité dans la vie, l'égalité réelle entre les hommes et les femmes permettra à terme, peut-être un jour, de faire un choix à égalité.
Oui, ce serait bien. Moi, je pense que quand même, je vois les jeunes générations, elles résonnent de façon très différente. Je vois à quel point les jeunes femmes ou les jeunes hommes même sont intéressés par tous ces questionnements dans ce livre, non pas parce qu'ils ne veulent pas d'enfants, mais parce qu'ils ont besoin de questionner justement la maternité, qu'est-ce que ça, la fécondité en général. Donc je pense que ça va changer avec toutes. En plus, c'est quand même cette diversité de vie, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, mais aussi ces techniques de procréation de plus en plus sophistiquées. Comment les femmes qui ne veulent pas d'enfants ne peuvent pas trouver leur place? Elles vont forcément les trouver.
Alors moi, je l'espère, mais ça, c'est quand même une des choses qui est au cœur du livre, c'est qu'elles sont complètement invisibles, ces femmes, ouais, dans l'espace public, dans la littérature aussi. Ouais. D'ailleurs, ce livre, effectivement, est intéressant à remarquer. Il est remarquable au sens où, finalement, on donne peu de place dans la société en général à ces femmes qui ne veulent pas d'enfants. Je reviendrai sur une des études que tu cites. Et tu dis, finalement, les études avant ne prenaient quasiment jamais en compte l'infécondité volontaire comme un choix, mais juste une conséquence, une des conséquences de quatre causes. C'est-à-dire qu'on se disait, si une femme n'a pas d'enfant à 40 ans, ben c'est soit qu'elle a été au chômage ou qu'elle a eu des politiques familiales qui ne sont pas assez convaincantes, motivantes pour aider à avoir des enfants, ou alors qu'il n'y a pas assez de structures d'accueil pour les enfants, ou à cause des inégalités de genre. C'est-à-dire qu'on ne considérait jamais le choix de la femme comme une option dans un sondage ou dans une étude.
Oui, c'est vrai.
Et ça change quand même aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et dans des livres, et dans des études, on va enfin ouvrir un petit peu la parole à ces femmes.
Ah oui, tu as raison. Comme moi, ça n'a jamais été invisible pour moi, même si je suis mère, j'ai été étonnée en écrivant ce livre, que ce soit à ce point-là, oui, que ça engendre, ça dérange. Elles font peur. Mais tu as vu un autre ouvrage qui est paru de Mona Chollet, qui parle de sorcières. Ce sont les sorcières d'aujourd'hui. C'est quand même fou.
Ça me fait penser à un des témoignages Isabelle dans ton livre qui dit « Il y a le germe de la mafia dans toute famille
».
Et c'est marrant ces expressions qu'elles utilisent. Et d'ailleurs, les mots sont extrêmement importants. Et là, je repense à un autre témoignage, celui de Chantal Thomas, qui est poétesse de mémoire.
Oui, poétesse. Ouais.
Et qui parle, elle, de femmes inachevées. Ouais. Et c'est vrai qu'on utilise encore aujourd'hui le terme « nullipar ». Une femme qui n'est pas partagée.
Et terme.
Donc rien que dans les mots, il y a cette violence aussi qu'on renvoie aux femmes qui n'ont pas voulu d'enfant.
Oui, il y a des extraits littéraires que j'ai aimé mettre dans ce livre. Il y a Jeanne Soutière aussi qui écrit ce livre qui s'appelle justement Nullipare.
Et aujourd'hui, alors c'est ça qu'il faut un peu déconstruire et changer, c'est aussi le vocabulaire qui entoure ce choix des femmes qui ne veulent pas d'enfant.
Je ne suis pas une militante moi-même, mais finalement, je me rends compte que c'est une sorte de, sans doute, de manifeste à sa manière. Voilà, on est tous différents, quoi. C'est ça, c'est la différence. C'est extraordinaire, la différence. C'est une richesse merveilleuse, quoi.
Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, parce que tu dis que tu n'es pas très militante, mais quand même, tu dis aujourd'hui, c'est un peu devenu quand même une cause. Il y a la cause des femmes sans enfants à défendre. Et ce livre en fait partie, donc... Pour moi, c'est quand même une forme de militance, ne serait-ce que d'en parler, et c'est bien. Et parce qu'aujourd'hui, il y a revendication. Aujourd'hui, il y a effectivement une revendication. Les femmes ont aussi envie de se faire entendre, ce qu'elles n'osaient pas faire avant.
Ça, c'est vrai. C'est ça. C'est la grande différence avec hier, parce que, à mon avis, il y en avait autant autrefois. Même, évidemment, elles ne pouvaient pas, puisque de toute façon, il ne s'agissait pas de désirer ou pas désirer un enfant. Les enfants venaient comme ça, sans qu'on le veuille vraiment. Mais il y en avait autant, c'est évident. En effet, aujourd'hui, on revendique, on l'assume, on le dit. Et
ça intéresse même des femmes qui ont des enfants.
Mais oui,
ça, c'est bien aussi.
Alors ça aussi, ouais, c'est vrai. J'espère que ça va intéresser beaucoup de femmes qui ont des enfants aussi.
C'est vrai que dans le livre, il y a toujours un petit peu à chaque fois le pendant. C'est-à-dire qu'il y a ces femmes qui parlent de leur choix de ne pas avoir d'enfants. Et en parallèle, ton histoire ou d'autres histoires de pourquoi des femmes font un enfant. Et ce questionnement, il est aussi intéressant parce que d'autres se disent, est-ce qu'elles le font pour finalement être dans la norme, par déterminisme social, ou nécessité intérieure, des fois l'appel du ventre, ou pour donner du sens. Pourquoi certaines, finalement, en veulent absolument un, et puis pourquoi certaines, pour les mêmes raisons, parfois, n'en veulent absolument pas.
N'en veulent pas, oui. Bon, là, on revient à la notion... très ambivalente et ambiguë d'instinct maternel, effectivement. Celles qui ont des enfants, qui sont mères, une grande partie d'entre elles, elles me l'ont dit, elles me le disent, n'ont pas forcément eu un désir puissant, ni une... c'est pas un choix qui s'est comme ça imposé. Elles ont suivi un peu les normes. Voilà, on se marie, on a des enfants, il y en a beaucoup. Alors qu'effectivement, celles qui n'en veulent pas doivent s'opposer à des normes. Alors,
Donc, avoir un enfant ou ne pas en avoir, le livre, il ne répond pas à la question, mais en tout cas, il donne le choix, libre à elle, le choix de ne pas être mère. Merci Laurence.
Merci à toi Blandine, j'étais très contente de pouvoir parler à ce micro.
Et c'est tout pour aujourd'hui. Alors faites ou pas des enfants, faites bien comme vous voulez, mais si vous en faites, faites-les bien. Et puis nous, on se retrouve bientôt. Et d'ici là, si je vous manque, vous pouvez retrouver Du Poil sous les bras en ligne sur l'internet.